Tous les jours, les colonnes de nos journaux racontent la banale et souvent déchirante histoire des accidents de la route. Tous les jours, nous apprenons que quelqu'un a provoqué un drame parce qu'il n'a pas respecté les règles. À la suite d'un accident dont j'ai été un des témoins, j'ai longuement réfléchi à la similitude frappante qui existe entre le code de la route de l'automobiliste et le code de la route du chrétien. Car le chrétien est lui aussi engagé sur une route qui n'est pas sans péril, où il y a des règles qui régissent sa marche et qu'il doit respecter sous peine d'accident. Dans une de ses lettres, l'apôtre Pierre souligne que les chrétiens sont des voyageurs sur la terre, c'est-à-dire des gens qui ne font que passer, car ils se dirigent vers un but précis. Ils ne sont ici-bas que transitoirement. Hélas, il faut constater que certains se conduisent pendant ce voyage comme conduisent certains automobilistes, c'est-à-dire très mal, sans respect des règles, donc dangereusement. Parmi les panneaux les plus importants pour l'automobiliste, il faut retenir les sens uniques et sens obligatoires. Ils existent aussi sur la route chrétienne. Il est facile de les reconnaître. Dans la bouche du Christ, ils ont l'aspect suivant. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ceci veut dire que si l'homme veut aller à Dieu, il doit obligatoirement passer par le Christ. C'est lui qui est en définitive le seul point de rencontre entre le Créateur et la créature. Or, on rencontre certaines personnes qui méprisent cette règle. Elles font partie de ceux pour qui la recherche de Dieu est une affaire d'improvisation et d'initiative personnelle. Dès lors, on parle de découverte de Dieu dans la peinture, dans la musique, dans la nature. Comme les alpinistes, chacun emprunte un itinéraire différent pour conquérir le même sommet. Peu importe la route, pourvu qu'on arrive au but. Ce sont là des raisonnements humains. Ils sont séduisants de logique, mais ne correspondent pas au code de la route chrétienne. Ils conduisent fatalement à la catastrophe. Il est vrai que la nature, la musique, la peinture, l'art en général peuvent élever la pensée et l'orienter vers une certaine lumière. Mais il ne faut pas confondre exaltation de l'âme avec découverte de Dieu. Lorsque le Christ affirme « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi », il signifie « On ne peut plus clairement » qu'il est le sens unique et obligatoire. De même, lorsque l'apôtre Paul affirme parallèlement que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, tout autre itinéraire est exclu, tout autre intermédiaire est une fausse route. Dès lors, par respect de la loi et par amour pour celui qui l'impose, pour notre bien, il faut se plier à ses exigences, suivre ses directives, sûr d'être guidé dans la seule vérité et dans la vraie vie. Encore faut-il connaître cette loi. Encore faut-il avoir lu et médité la parole du Christ et de ses apôtres, telle qu'elle s'offre à nous dans la Bible. Imaginez la circulation à Paris ou à Lille ou à Bruxelles, où 2% seulement des automobilistes connaîtraient le code de la route. Faute de connaître la loi chrétienne, de nombreux croyants se conduisent d'une manière désordonnée, approximative et dangereuse. Chacun suit son propre code. Chacun s'est inventé une religion à sa manière et s'égare ainsi, inéluctablement, dans des sens interdits. Quels sont-ils? Il y en a plusieurs, tous décrits dans les Écritures. Nous ne relèverons que les plus importants. Il y a d'abord cette porte large et ce chemin spacieux dont ont parlé le Christ. C'est la route du moindre effort. C'est celle qui fait dire « tout le monde le fait, tout le monde le dit, tout le monde le croit ». Cette route-là, affirme Jésus, mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Très peu se soucient de chercher la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. « Ne vous conformez pas au siècle présent », implore l'apôtre Paul, « mais cherchez quelle est la volonté de Dieu. » Il y en a qui s'engagent dans cet autre sens interdit qui consiste à faire prévaloir des commandements d'hommes, souvent aux dépens des commandements de Dieu. Le mal est tout aussi grave lorsqu'on les place sur le même pied d'importance. « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Tel est le reproche majeur de Jésus aux pharisiens de son temps et de tous les temps. En fait, on s'aperçoit que sur le chapitre du respect dû à la parole, les textes sont nombreux et catégoriques, sans doute parce que la tendance humaine à déformer ce qui est écrit est très forte. Toute modification, altération ou étirement de la parole est sévèrement réprouvé par l'Esprit-Saint, avec une sorte de véhémence jalouse. Sur ce sujet, je vous encourage à relire la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les deux premiers versets, la seconde épître de l'apôtre Jean, versets 9 et 10, l'épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Il suffit d'entendre le Christ nous lancer ce défi « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». À ses yeux seul compte l'attitude obéissante de celui qui veut faire la volonté de Dieu. C'est la grande preuve d'amour et de fidélité. Au jour du jugement, certains essaieront d'attirer son attention sur les signes et les miracles qu'ils auront faits en son nom. Mais s'ils ont négligé de faire la volonté de Dieu, il leur dira ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La leçon est claire. Nul ne devrait l'ignorer. Sur l'itinéraire du chrétien, il y a aussi des croisements dangereux. Ils sont de nature à inciter à la prudence. Ce sont les jours où l'homme rencontre la souffrance, car elle est une épreuve. Et comme toute épreuve, elle comporte aussi des tentations. Tentations à la révolte, au découragement, à l'abandon dans l'amertume. C'est l'heure où il faut se souvenir de cette sûre promesse du Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le croisement dangereux, c'est aussi le jour où l'on se sent maître de soi, confiant, fort. Nous sommes ici dans le voisinage de la suffisance, de l'orgueil, de l'oubli de la présence de Dieu. À cet égard, nous avons l'avertissement paternel de l'apôtre Paul. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Venons-en maintenant aux priorités. Ce sont des cas très importants pour l'automobiliste. Il y a aussi des priorités pour le chrétien. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont souvent les refus de priorité qui sont cause des plus graves accidents. Notre société moderne est surtout caractérisée par une recherche effrénée du confort, du plaisir, de l'argent, de l'abondance. C'est ce que Jésus appelait « s'amasser des trésors sur la terre qui seront la proie de la teigne, de la rouille et des voleurs ». L'inquiétude pour le vêtement, le manger et le boire. À ses yeux, l'homme s'évertue à rechercher le superflu au prix de l'essentiel. Il y a, il est vrai, des soucis légitimes pour les besoins élémentaires de toute existence humaine. Mais lorsqu'ils deviennent des préoccupations incessantes au point de mobiliser toutes les facultés et l'énergie du corps et de l'esprit, c'est une anomalie. Dans ce cas, il faut redresser la situation en respectant les signaux prioritaires du Christ. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Or, il n'en est pas ainsi. On n'a pas cru à sa parole. Que représente Dieu dans notre vie? Est-il autre chose qu'un être vague dont on se sert pour lui reprocher le mal qui existe dans le monde ou pour le rendre responsable du gâchis que les hommes ont fait de sa création? Occupe-t-il plus de place dans nos vies que les habits du dimanche qu'on sort une fois par semaine pour aller à l'office? Et l'on voudrait que notre vie fût un succès et l'on voudrait qu'il n'y eût plus de guerre. Et l'on voudrait trouver la paix et le bonheur. Dans la Bible, il est question de bâtisseurs insensés qui dédaignent une pierre alors qu'elle était destinée à devenir la principale de l'angle, la pierre prioritaire. Que vaudra leur construction? Dans les Écritures, cette pierre, c'est le Christ. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a dit, seul fondement sûr et durable de toute vie d'homme. C'est l'apôtre Pierre lui-même qui l'affirme par deux fois. Vous qui bâtissez votre vie, celle de vos enfants, pierre par pierre, jour après jour, qu'avez-vous fait de la pierre d'angle? Sur quoi, sur qui avez-vous fondé votre vie, vos espérances, votre avenir? À qui, à quoi donnez-vous priorité? Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce point, mais il nous faut rapidement nous arrêter au signal stop. Combien en avons-nous brûlé dans notre existence trépidante? Aujourd'hui, tout le monde court. On invente des véhicules rapides pour gagner du temps, mais plus on va vite, moins on a de temps. Il y a de nombreux panneaux stop sur la route du chrétien qui l'invitent à s'arrêter pour reprendre son souffle, pour rétablir sa respiration spirituelle, pour prier. Prier, c'est entrer en communication avec Dieu. C'est tirer la corde qui relie le ciel à la terre pour attirer l'attention de Dieu. Prier, c'est demeurer lucide quand tout autour on perd la tête. Prier, c'est faire provision de force et d'énergie morale quand tout autour on s'épuise à chercher ce qu'on ne trouvera jamais. Moqueur, vous pouvez donner libre cours à vos sarcasmes ou à votre pitié hautaine, mais sachez que jamais vous n'entamerez la conviction de celui qui a découvert le merveilleux pouvoir d'invocation et d'intercession d'une simple phrase sincèrement adressée à Dieu. Le temps nous manque pour parler plus longuement de toutes ces règles de la route chrétienne. Il faut pourtant encore mentionner l'indispensable assurance ou la garantie. Si vous le permettez, je ne ferai que citer quelques textes où transparaissent la confiance et l'assurance des apôtres, dont la vie et la mort constituent pour nous un sceau d'authenticité. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Nous sommes donc toujours pleins de confiance.